Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
C'est une des informations de la nuit. Les agences de notation Moody's et Fitch ont choisi de ne pas abaisser la note de la dette française malgré le dérapage du déficit public de la France.
La réaction de Bruno Le Maire, cette décision doit nous inviter à redoubler de détermination pour établir nos finances publiques et tenir l'objectif fixé par le président de la République, être sous les 3%.
Ouf, les agences de notation n'ont pas dégradé la note de la dette de la France, comme on l'entend ici sur BFM TV. Mais le couperet n'est pas passé loin, alors que le déficit public a dérapé en 2023 et que les perspectives 2024 ne sont pas très encourageantes. Le gouvernement pourra-t-il vraiment tenir son engagement de ne pas augmenter les impôts ? Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme disponible dès 17h sur leséchos.fr et sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
Salut mec, ça va ? Tu vas bien ? On se présente ? Mais non, tu nous connais. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé, tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfices, tes madeleines, tout ce qui traîne.
On ne les présente plus non plus, les inconnus et leurs chansons, les rap-tout, sortent d'hymnes au ras-le-bol fiscal, de plus en plus exprimé par les Français. Augmenter les impôts, le gouvernement de Gabriel Attal s'y refuse, tout comme ses prédécesseurs. Mais pourra-t-on y couper ? Alors que les comptes de l'État rougissent chaque année un peu plus et alors que les agences de notation restent à l'affût, à tel point qu'on se dit que pour échapper à une dégradation de sa note, la France devra avoir autant de chances que la galinette cendrée avec les mauvais chasseurs des inconnus. Aujourd'hui dans La Story, j'ai laissé reposer la rédaction et j'ai invité Pascal Saint-Amand. Il est économiste, auteur de « Paradis fiscaux », Comment on a changé le cours de l'histoire aux éditions du Seuil. Il fait aussi partie de ceux qui, à l'OCDE, ont plaidé pour un impôt minimum mondial pour les multinationales. Avec lui, on va parler déficit, mais aussi taxes sur les super-profits et impôts sur les milliardaires. Bonjour Pascal Saint-Amand.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit à HEC Paris, partenaire chez Brunswick et ancien directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. D'abord, comment avez-vous accueilli la décision des agences de notation de ne pas toucher à leurs notes concernant la dette de la France ?
En tant que citoyen, avec soulagement. En tant qu'observateur, sans grande surprise. Il y avait un petit peu de tension du fait du dérapage budgétaire que l'on connaît, mais les défis fondamentaux avaient été identifiés l'année précédente avec beaucoup de débats. Donc voilà, le fait de ne pas rajouter une couche, ce n'était pas forcément une grosse surprise cette année.
Les comptes de l'État se sont dégradés effectivement l'an dernier. Selon l'INSEE, le déficit public a atteint 154 milliards d'euros en 2023. Il représente 5,5% du PIB. C'est au-dessus des 4,9% prévus encore en fin d'année par Bercy. Pourquoi les déficits sont-ils plus importants que prévu ?
Ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas forcément tous les éléments de réponse, mais c'est vrai qu'on s'est habitué à des niveaux de dépenses, notamment post-Covid, qui ne se sont pas réduits. On a fait face à un choc extérieur avec l'augmentation des prix du pétrole et les mécanismes de stabilisation. On a des politiques de soutien de l'emploi qui sont plutôt efficaces, mais qui coûtent pas mal d'argent. Et puis, on a quelques fondamentaux qui ne sont pas excellents, malgré la réforme des retraites. Donc, tout ça fait que ça file un peu et ça file trop par rapport à non seulement l'orthodoxie budgétaire, mais aussi une situation qui serait plus saine et plus durable.
Est-ce que le quoi qu'il en coûte a été a posteriori une erreur ?
Non, je ne crois pas. Je pense que c'était absolument nécessaire. Les quoi qu'il en coûte, hein, on peut remonter à 2008 et quoi qu'il en coûte pour sauver le système financier. On peut remonter à 2011-2012 et le quoi qu'il en coûte pour sauver l'euro. Et puis plus récemment, quoi qu'il en coûte pour sauver l'économie avec le Covid. Je pense que ces déficits budgétaires sont ennuyeux, mais pas vitaux, alors qu'une crise profonde, aussi bien en 2008 qu'en 2012 qu'aujourd'hui, ou au moment du Covid, aurait pu être fatale à l'économie et aussi au bien-être collectif des différentes personnes, avec une vraie casse sociale et humaine. Donc non, je pense que le quoi qu'il en coûte est une bonne politique. Maintenant, il ne faut pas la sortir à tous les coups.
Mais le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Alors, sauf peut-être pour les JO, reste que l'argent rentre moins bien dans les caisses de l'État en raison notamment du ralentissement économique plus prononcé que ce que prévoyait le budget. Les recettes de TVA ont été moins fortes. C'est un effet du repli rapide de l'inflation. La chute du marché immobilier a aussi pesé sur les comptes. L'État empochant, je le rappelle, une bonne partie des fameux frais de notaire. Mais le trou s'explique aussi par la taxation des super-profits des énergéticiens qui devaient rapporter plus de 12 milliards en 2023. Au bout du compte, à peine 300 millions sont allés dans le budget. Pourquoi une telle différence ?
Les taxes sur les surprofits sont des taxes qui marchent bien en rhétorique, en politique, et qui ont beaucoup de succès à cet égard, et qui en réalité marchent mal d'un point de vue financier et d'un rendement budgétaire. Pourquoi ? Un, parce que c'est très difficile de définir ce qu'est un surprofit. Si vous êtes en économie de guerre, vous avez manifestement, et je parle de l'économie de guerre littéralement, parce que c'est là que sont nées les taxes sur les surprofits, vous pouvez, je pense, plus facilement identifier la rente qui est générée par une situation totalement exceptionnelle. Lorsque vous avez un choc extérieur comme une hausse des prix du pétrole en raison de situations géopolitiques ou de problèmes logistiques, en réalité, c'est beaucoup plus difficile. Oui, il y a un surprofit, oui, il y a une rente, mais quel est le point de référence ? Et si vous n'avez pas le bon point de référence, vous avez du mal à déterminer ce qu'est la rente ou le surprofit. Enfin, ces taxes-là, elles provoquent des comportements différents, des comportements de reporter dans le temps son profit ou de moindre investissement. Et donc, au total, ce n'est pas une très grande surprise que ces taxes n'aient pas produit autant d'impôts qu'elles devaient le faire. Et donc, je suis personnellement assez réticent et dubitatif sur les annonces de « on va à nouveau faire des taxes sur les rentes parce qu'elles ne marchent pas très bien », même si économiquement, une fois de plus, taxer une rente, ce n'est pas absurde, si c'est vraiment de la rente, parce que la rente qui est liée à une situation de monopole ou une situation totalement exceptionnelle, si vous en prélevez une partie, ça ne va pas induire un changement d'investissement de la part des investisseurs. Et donc, il n'y a pas d'impact économique négatif. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est que c'est extrêmement difficile d'évaluer à partir de quand on est sur une rente ou on n'est pas sur une rente.
Cette question de la taxation des super-profits a ressurgi depuis 2 ans. On le voit, les entreprises du CAC 40 notamment ont publié d'excellents résultats dans leur ensemble depuis notamment la crise du Covid, depuis 2021. Beaucoup de voix qui s'élèvent, notamment à gauche de l'échiquier, pour réclamer la mise en place de cette taxe. Mais ce que vous dites, c'est que finalement, il ne faudrait pas trop compter dessus pour réduire le déficit de l'État.
Et puis, ça ne me paraît pas être de bonne politique économique. On a un impôt sur les sociétés. Alors, peut-être qu'il faut calibrer l'impôt sur les sociétés, le remonter un peu ou pas. Il y a un environnement international, il y a le besoin de favoriser des investissements et in fine, il faut de la croissance et de l'emploi. Donc, il faut combiner ces différents facteurs pour avoir le meilleur résultat. Mais ce n'est pas parce qu'on a des bons profits ou une industrie qui est rentable qu'il faut immédiatement dire, ah ben, on va ajouter quelque chose. Et puis, par ailleurs, introduire trop de taux différents en admettant que vous allez taxer le CAC 40 qui est profitable d'une certaine manière, les entreprises de CAC 40 et un peu moins les autres entreprises qui seraient plus sur des retours de route. On dit plutôt que de la rente, ça introduit des biais, des distorsions, donc c'est pas de la bonne politique. La question, je veux pas paraître comme anti-gauche ou anti-droite là, mais essayer d'avoir une approche un peu bipartisane des choses. La vraie question, me semble-t-il, c'est la taxation du capital dans son ensemble, à la fois au niveau de l'impôt sur les sociétés, quand on taxe les entreprises, mais aussi quand on taxe les actionnaires. Et c'est là qu'on voit qu'on a des vraies problématiques au niveau français, mais aussi au niveau mondial. D'ailleurs, en France, peut-être un peu moins que dans le reste du monde, parce que notre coefficient Gini, là, qui révèle les inégalités entre les personnes, est plutôt réduit en France par rapport à d'autres pays, mais quand même, les inégalités se sont accrues. Il y a une concentration de la richesse dans des nombres restreints de mains. Et on voit que le taux effectif d'imposition des plus riches est en réalité assez faible, voire très faible. Et donc, il y a une question sur la taxation du capital, des dividendes, la détention de fortune, la transmission de fortune.
Et le gouvernement réfléchit d'ailleurs à une taxation des rachats d'actions par les entreprises.
Absolument, et ça devrait conduire à une réflexion plus générale, je pense, sur la taxation du capital. On voit que le sujet émerge ici ou là. Sous la présidence brésilienne du G20, on parle d'une taxe mondiale sur la fortune, qui en réalité, je pense, est une taxe sur le revenu qui serait indexée sur la fortune. On a ce sujet-là, mais on a en France les problématiques de rachat d'actions, et on voit que cette question de la taxation du capital et de son déséquilibre par rapport à la taxation du travail au sens large, hein, les cotisations sociales, l'impôt sur le revenu, les salaires, mais aussi la TVA hein, qui taxe les personnes, et in fine, eh bien, on voit que c'est un débat qui est un débat d'actualité un peu partout, y compris aux États-Unis, qui pourtant est un pays qui n'aime pas beaucoup la fiscalité.
Taxer les super riches, hein, l'idée n'a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est que jamais encore cette question n'avait été abordée à un tel niveau dans une réunion internationale. Hier, le ministre brésilien des Finances a appelé les pays du G20 à trouver des solutions efficaces pour faire en sorte que les super riches paient leur juste part de l'impôt. Et il leur a même donné un rendez-vous le mois de juillet pour aboutir à une position commune.
Taxer les super riches, les milliardaires, une idée avancée au G20 par le Brésil du président Lula fin février, comme on l'entend ici sur RFI, une taxe minimum sur le modèle de l'impôt sur les sociétés, une idée qui plaît aussi en France du côté de Bercy et de Bruno Le Maire. Cette taxe pourrait rapporter, selon l'Observatoire européen de la fiscalité, 250 milliards de dollars par an. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Je pense que ce débat est un débat sur le bon sujet. En tout cas, c'est un vrai sujet. On a, au cours des 15 dernières années, et j'y ai participé quand j'étais à l'OCDE, introduit une régulation fiscale de la mondialisation, en mettant fin au secret bancaire, en ayant des échanges automatiques de renseignements, et en régulant la taxation des multinationales, en mettant fin à tous les trous qui existaient dans la raquette fiscale internationale, et en mettant en place un filet de sécurité qui est un impôt minimum mondial de 15% sur les sociétés. Et aujourd'hui, je pense que le sujet qui n'a pas encore été traité, et qui fait écho à ce qu'on vient d'évoquer, qui est le déséquilibre croissant au cours des 30-40 dernières années entre la taxation du travail et la taxation du capital, ben, c'est le sujet. Et dans la façon d'aborder ce sujet, vous avez plusieurs avenues, et une d'entre elles est de dire les personnes les plus riches, du fait de la composition de leur patrimoine et de leurs revenus, eh bien, ces personnes les plus riches, les milliardaires, sont très peu taxées sur leurs revenus parce que ces revenus ne sont pas distribués. Alors, ils le sont aux États-Unis, où ils sont taxables aux États-Unis, même quand ils sont pas distribués, ce qui n'est pas le cas en Europe, en France notamment. Et donc, il faudrait, pensent certains, comme Gabriel Zucman qui a présenté ce sujet au ministre des Finances du G20 en février dernier, Esther Duflo, c'était le cas il y a une quinzaine de jours à Washington lors des réunions de printemps du FMI, eh bien, de dire il faut mettre en place une sorte de filet de sécurité pour qu'il y ait une taxation minimum, et cette taxation minimum sur le revenu, en fait, elle s'indexerait sur le niveau de patrimoine qui est le bon référent. En tout cas, c'est ça la proposition.
Nous allons partir pour la Norvège, un pays qui fait fuir ses milliardaires. Pour quelle raison ?
Parce que le gouvernement travailliste en Norvège a récemment augmenté l'un de ses impôts sur la fortune.
Et l'avantage de faire finalement un impôt au niveau mondial ou une taxation au niveau mondial, ça éviterait peut-être la fuite. C'est souvent quelque chose qu'on met en avant justement lorsqu'on parle de fiscalité trop forte. Et on pense bien sûr à la France dans ce cas-là.
Alors c'est vrai que dans un univers globalisé, dans une économie globalisée, où on peut très facilement déplacer ses actifs ou se déplacer soi-même avec ses actifs, en fait, si un seul pays bouge, bah, il a le risque de voir sa base taxable disparaître. Donc il y a la nécessité d'agir à plusieurs. C'est ce qui s'est fait. Hein, pour l'impôt minimum mondial, il y a 140 pays qui se sont mis d'accord pour sa mise en œuvre. Sur l'échange automatique de renseignements, il fallait tous les pays, notamment tous les pays à secret bancaire, de la Suisse au Luxembourg en passant par Singapour. Sinon, ça ne marche pas. Ce que les Anglais appellent « leveling the playing field », niveler le terrain de jeu. Sinon, ça penche dans un sens et c'est toujours la même équipe qui marque. Ceci étant, pour les personnes physiques, c'est plus compliqué parce que tous les pays n'ont pas une fiscalité si proche que ça sur les personnes physiques, à la différence de la fiscalité sur les sociétés, qui est globalement la même. Il faut faire des harmonisations de base et autres, mais tous les pays ont grosso modo le même modèle. À l'impôt sur le revenu des personnes physiques, c'est très différent. Et puis le dernier élément, c'est que tous les travaux qui ont été faits au cours des 15 dernières années visaient à traiter les questions transfrontières, quand il y avait un flux de revenus d'un pays à un autre. Là, la proposition qui est faite, c'est tous les pays vont mettre en place d'un point de vue domestique, national, un impôt sur la fortune ou un impôt minimum sur le revenu. Et ça, c'est une démarche qui est très différente et qui me paraît aujourd'hui hors de portée. Donc je pense que le diagnostic est bon, l'idée n'est pas mauvaise, mais il faut trouver un chemin qui permette d'aboutir à quelque chose et on n'y est pas encore.
Depuis le 1er janvier 2024, les entreprises du monde entier seront soumises à l'impôt minimum de 15% sur leurs profits réalisés dans les pays de l'Union européenne. En quoi consistera cet impôt mondial ?
Alors, je formulerai peut-être la question légèrement différemment, ou en tout cas la présentation de l'impôt minimum mondial. L'idée de l'impôt minimum mondial, c'est de dire que lorsqu'une entreprise a localisé des profits dans un pays, ou ses profits dans ce pays sont taxés à moins de 15%. En l'occurrence, c'est 15% et 15% effectif. Hein. Ce n'est pas des trucs manipulés comptablement. C'est vous prenez le profit effectivement réalisé et les impôts effectivement payés et vous ramenez. Et si c'est inférieur à 15%, alors un pays ramassera la différence. Alors, ce pays, c'est lequel ? Ben, c'est soit le pays de siège de l'entreprise, pour être simple. Vous avez une entreprise française qui fait du business aux États-Unis, mais qui a localisé une partie de ses profits sur le chemin aux Bermudes à 0%. Eh bien, ses profits à 0%, la France récupérera la différence entre 0 et 15%. Mais si la France ne le faisait pas, alors on va prendre l'exemple inverse, les États-Unis ne le font pas. Et les États-Unis font du business en Europe, y compris en France, et eux, ils ont pareil laissé une partie de leurs profits aux Bermudes, toujours à 0%. Les États-Unis devraient prendre la différence, mais ils vont pas le faire parce que Biden a échoué à faire voter cette réforme au Congrès. Le sénateur Manchin s'y est opposé. Il manquait une voix de majorité, donc ils ont échoué. Eh bien, dans ce cas-là, c'est la France et les autres pays européens qui vont ramasser les 15% qui se trouvent aux Bermudes. Et dernier élément, la dernière lame du rasoir, c'est un rasoir à trois lames, c'est les Bermudes elles-mêmes qui vont dire « mais finalement, puisque soit les Américains vont le prendre, soit les Européens vont le prendre, ben je vais le prendre moi-même. » Et donc, vous avez un certain nombre de paradis fiscaux, de pays sans fiscalité qui ramassent cet impôt. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Ben, c'est qu'en réalité, si vous avez une masse critique de pays qui appliquent l'impôt minimum mondial, et c'est le cas aujourd'hui avec le Japon, la Corée, l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada et une cinquantaine d'autres pays, même si les États-Unis et même si la Chine n'appliquent pas, en fait, tous les profits de toutes les multinationales localisées dans des pays où ils sont à moins de 15% feront l'objet d'une taxation à 15%. Et c'est ce qui se passe depuis le 1er janvier 2024.
J'ai envie de dire que c'est un peu vous qui en parliez le mieux, finalement, parce que, d'une certaine façon, vous faites partie des gens qui sont à l'origine de cet impôt mondial. C'est en train de se mettre en place. Est-ce que vous êtes entre l'émotion et un peu ému, finalement, que vous soyez arrivé à avoir cet impôt mondial, ou est-ce que vous avez un peu d'appréhension finalement sur l'acte de naissance qui est aujourd'hui ?
Ce qui surprend tous les observateurs, c'est qu'en fait, ça a marché, on y est, et il est advenu l'impôt minimum mondial. Il n'y a plus de questions, c'est un fait, du fait de tous ces pays qui ont bougé en même temps. Il va falloir évidemment tester l'efficacité, mais il y a assez peu de façons de le vider de son contenu, il n'y en a même pas du tout. Et pour conseiller certains gouvernements sur comment mettre cet impôt minimum en place, certains gouvernements essayent de trouver des échappatoires, notamment si vous êtes une petite île isolée dans le Pacifique, dans la Caraïbe ou ailleurs, vous avez très peu d'éléments pour attirer des investissements, sauf des éléments fiscaux. Mais ils ont cherché, en fait, on ne trouve pas. Donc cet impôt minimum mondial, il fonctionne et ça veut bien dire que si vous avez une volonté politique, si vous avez une dynamique politique, vous pouvez arriver à réguler fiscalement la mondialisation. Et c'est important, hein, c'est pas parce qu'on est des Français régulateurs fou et qu'il faudrait mettre de la régulation partout. C'est qu'en réalité, si vous voulez garder les bons aspects de la mondialisation sans aboutir au rejet que l'on constate aujourd'hui avec la montée des populismes, ce rejet de la mondialisation qui peut conduire à fermer les frontières, à se replier sur soi, à avoir des guerres commerciales, mais il faut de la régulation. Il faut que les excès de la mondialisation, qui s'étaient notamment vus dans le domaine fiscal, par cette concurrence fiscale, par cet effritement des bases fiscales du capital notamment et de l'impôt sur les sociétés, se sont traduits par une hausse de l'imposition sur le travail qui aboutit à une situation un peu injuste qui provoque ces réactions de rejet. Donc voilà, c'est pour ça que c'est plutôt une satisfaction de voir que lorsqu'il y a de la volonté politique, même si le schéma est un peu compliqué, mais ça peut marcher.
Je veux bien payer mes impôts, mais il ne faut pas me laisser le temps de réfléchir.
ça peut marcher et ça peut rapporter gros en masse globale.
Alors, il est estimé, c'est le FMI, l'OCDE qui ont sorti ces chiffres, que l'impôt minimum mondial, il rapportera entre 150 et 200 milliards d'euros d'impôts supplémentaires par an au niveau mondial. Mais je pense que le chiffre le plus important, je n'ai pas le chiffre lui-même, mais c'est le fait qu'on avait un impôt sur les sociétés qui s'érodait tendanciellement vers zéro sur la propriété intellectuelle. Là où vous avez de la rente, là où vous avez des retours importants. C'est là-dessus qu'il y avait de la concurrence fiscale. C'est assez facile de transposer ou de faire passer votre propriété intellectuelle d'un pays à un autre. C'est plus facile que de fermer une usine et d'en reconstruire ailleurs, même si ça se fait aussi. Et donc, les facteurs mobiles de production, hein, la propriété intellectuelle en partie, eh bien, ont profité de cette concurrence fiscale qui tendait vers zéro. Et là, on a mis un plancher à 15%, ce qui va permettre à des États comme la France de garder son impôt sur les sociétés à 25% sur ce qui se passe en France. Et au lieu de ne rien récupérer sur ce qui se passait à l'étranger qui était taxé à 0%, ben, il y aura ce filet de sécurité de 15%. Donc, au-delà des 200 milliards, 150 à 200 milliards d'euros de revenus supplémentaires annuels, en fait, on a préservé une masse beaucoup plus importante qui est celle de l'impôt sur les sociétés en général.
Oui, avec un peu d'argent qui pourrait aussi rentrer dans les caisses de l'État à un moment où le déficit est important. On a vu d'ailleurs que Moody's et Fitch ont maintenu la note et la perspective de la dette française, mais dans leur communiqué, les deux agences disent qu'elles ne croient pas que la France pourra tenir ses engagements, et notamment cet engagement de revenir sous 3% de déficit en 2027. Le gouvernement n'a pas l'intention pour l'instant d'activer la hausse des impôts, là aussi, pour réduire ces déficits. On ne peut pas augmenter les impôts, on voit qu'il y a une volonté de baisser les dépenses. Est-ce que ça peut suffire?
De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'autres leviers. Hein. Soit on augmente les impôts, soit on baisse les dépenses, soit on fait les deux. Alors, si on met les choses un peu en perspective, notamment sur la hausse des impôts, la France a un niveau de prélèvement obligatoire sur le produit intérieur brut à plus de 47%. On est dans les champions du monde. On est toujours sur le podium quand on n'est pas sur la plus haute marche. Et donc, ça laisse des marges de manœuvre relativement réduites pour augmenter les impôts. Après, dans cette enveloppe-là, il y a peut-être des répartitions à faire, hein, et changer la façon dont le poids fiscal est mis sur les différents agents. Mais c'est vrai que les marges de manœuvre pour augmenter les impôts sont plutôt réduites. Et par ailleurs, les impôts, notamment en période électorale, ce n'est pas extrêmement populaire. Donc, c'est une autre difficulté à laquelle le gouvernement fait face à 2 mois des élections. Ensuite, est-ce qu'on peut réduire les dépenses? La difficulté qu'on a en France et qui soulève beaucoup d'interrogations et de frustrations, c'est que qualité des services publics est considérée comme étant plutôt en diminution qu'en hausse, et on constate qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de dépenses. Donc voilà, c'est cette difficulté-là que le gouvernement doit résoudre sur un chemin qui devient un peu plus ardu, avec des taux de déficit qui sont élevés et une trajectoire de la dette dont il faut s'assurer qu'elle continue de baisser.
Un dernier mot, vous êtes depuis votre départ de l'OCDE partenaire chez Brunswick, qui conseille notamment de grandes entreprises françaises. Celle-ci était inquiète d'ailleurs de l'application de cet impôt minimum, notamment sur la façon dont il faudra remplir la déclaration. C'est un sujet que vous abordez avec vos clients ?
Alors, je conseille des entreprises françaises, mais aussi des entreprises du monde entier. Brunswick est une firme mondiale. Et mon travail à Brunswick, ça consiste pas à donner des conseils fiscaux, ce que je ne voulais pas faire après avoir été le régulateur fiscal. Je pensais que c'était pas approprié de devenir un conseil fiscal. Donc, mon travail consiste surtout à dire aux entreprises qu'il faut qu'elles payent plus d'impôts et qu'il faut qu'elles soient plus transparentes, que le monde a changé en réalité, qu'on n'est plus dans un monde où on pouvait faire de l'optimisation fiscale à tout va sans rendre compte à personne, mais qu'au contraire, on est aujourd'hui dans un monde où être un bon citoyen ou avoir des investissements soutenables, durables, est essentiel. Et ça vaut aussi pour la fiscalité. Avoir un profil fiscal qui n'est pas trop agressif, avoir une politique fiscale qui est un peu contraire à prendre trop de risques, et avoir une politique fiscale pour la transparence, qui devient de toute façon obligatoire à compter du 1er janvier prochain dans l'Union européenne, où les entreprises vont devoir rendre public ce qu'on appelle leur reporting pays par pays, c'est-à-dire où sont localisés leurs profits, où sont leurs chiffres d'affaires, combien d'employés. Eh bien voilà, c'est un peu ça le conseil que je donne aux entreprises. Il est temps de faire rentrer la fiscalité dans les salles de conseil d'administration pour qu'il y ait un vrai débat et qu'on sorte de ce paradigme qui a prévalu pendant 30 ans de « on est un peu des cow-boys, on réduit la fiscalité à tout va, même si les schémas sont un peu tendancieux ou tangents, et on va sur des positions beaucoup plus conservatrices ».
Et c'est un discours qui passe bien ?
C'est un discours qui, de toute façon, passe parce que je pense qu'il y a une prise de conscience de la part des entreprises, notamment du fait que l'environnement de régulation a changé, du fait de tous les travaux qui ont été faits par le G20 depuis une quinzaine d'années, du fait des pressions de l'opinion publique. Vous avez vu, au cours des 15 dernières années, tous les scandales qui sont passés. Ça a commencé avec le Liechtenstein en février 2008, et puis le plus récent, c'était les Paradise Papers, et il y en a toujours. Donc, on voit bien qu'il y a une pression politique. De nombreuses associations, des ONG comme Oxfam et autres qui sont sur ces sujets. Et puis, arrivent des obligations de transparence dans l'Union européenne en particulier, mais il y a un débat en Australie, il y a un débat aux États-Unis pour obliger les entreprises à rendre plus de comptes sur leur profil fiscal. Donc voilà, ça passe ou ça casse ? Non, ça passe en réalité parce que c'est devenu une réalité et il faut que les conseils d'administration et les dirigeants d'entreprises aient ça en tête. La fiscalité, c'est pas juste. J'allais presque dire que la fiscalité est trop sérieuse pour être laissée aux fiscalistes.
Merci Pascal Saint-Amand, auteur de Paradis fiscaux, comment on a changé le cours de l'histoire aux éditions du Seuil. Cet épisode du podcast des Échos a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.